l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et les versets 24 à 30, l'essentiel du message, en tout cas les versets sont dans votre sommelier. Ici, des fois, on n'a pas le temps de tout regarder les versets, mais vous avez ça, vous pouvez l'apporter chez vous. Matthieu, chapitre 13. Et les versets 24 à 30 et 36 à 43. En juin et en juillet, on a regardé la parabole du semeur en deux étapes. On a parlé de l'agriculture spirituelle. L'agriculture, on parle de culture de la terre. L'agriculture spirituelle, c'est la culture du cœur. La culture de l'esprit, de l'âme, de la vie spirituelle. On pourrait appeler ça la cardio-sculpture. La cardio-culture, pas la sculpture. La culture du cœur. On va voir ce matin la suite de ces quelques messages sur l'agriculture de l'âme, sur les paraboles de Jésus, paraboles du royaume, qui ont trait à la semence, particulièrement. On avait la parabole du semeur, en juin, juillet, ben là, on a la parabole du blé et de l'ivraie. Et la prochaine fois, bien Dieu voulant, ce sera la parabole du grain de moutarde, petite semence, ben, qui fait un grand produit, un grand fruit, un grand arbre. On va lire versets 24 à 30 et 36 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Nous lisons à partir de la version colombe, là. Si jamais vous n'avez pas une colombe et vous voulez suivre directement les versets que je vous dis, dans la version des Bibles colombes sur la table. Et verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie. » Et il y alla en germe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. » Ensuite, verset 36, Jésus donne l'explication. Verset 36, « Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Et celui qui a des oreilles entend. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons une parole, une portion de ta parole, une parole d'écriture, de l'écriture, et te prions que tu puisses nous guider afin de mieux la comprendre, l'appliquer à nos vies, et que tu ouvres nos cœurs. Transforme nos vies. Ô Dieu, aide-nous à entendre ce que tu dis. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Et c'est toi qui nous donnes l'ouïe, l'audition, afin qu'on puisse entendre. Aïe, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bien, on va voir, en fait, on va voir sept éléments dans cette parabole. Premièrement, le semeur, le champ, qui est le monde, le semeur, le fils de l'homme. Deuxièmement, le champ, le monde, la bonne semence, les fils du royaume, l'ivraie, c'est le fils du malin, l'ennemi, le diable, la moisson, la fin du monde, et finalement, les moissonneurs, les anges. Donc, on va procéder selon les explications du Seigneur. Le semeur, le fils de l'homme, il leur proposa, verset 24, une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. » Qui est le semeur? L'homme, ici, a semé de la bonne semence dans son champ. Et Jésus a dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme. Jésus est appelé dans les évangiles, fils de l'homme, fils de Dieu, Christ, sauveur, différents noms. Hein? Et dans les épîtres, d'autres noms aussi. Bon. Le mot fils de l'homme, qu'est-ce que veut dire cette expression par rapport à fils de Dieu? Bien, c'est par ce terme que Jésus se désigne lui-même. Il va dire souvent le Fils de l'homme. Et les autres vont référer à lui comme le Fils de Dieu. Même si c'est un terme qui sert à indiquer l'humanité de Jésus, hein, il est le Fils de l'homme, donc bien sûr, il est homme. Ça va de soi. Il y a quelque chose de plus qui est résonné dans ce nom-là. C'est un terme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi, principalement dans les écrits qu'on dit apocalyptiques, la littérature apocalyptique. Dans la Bible, il y a différents types de littérature. On a le genre littéraire historique, comme la Genèse, l'Exode, on raconte les faits. Okay? On a le genre littéraire poétique, bon, on a dans les psaumes, hein, il y a des éléments, on porte notre attention sur la forme du langage, sur les rimes. En français, nos rimes, c'est à la fin de la phrase. Pour les Hébreux, eux, les rimes, c'est au début de la phrase. On va avoir des psaumes qui vont commencer toutes par la même lettre, Aleph, A, pour A, B, C. Hein? Et des fois, c'est des rimes d'idées. On dit une chose et on répète la même chose dans d'autres mots après. Ou on va dire une chose et on va répéter l'opposé après. Donc, c'est des rimes d'idées. Bon, la littérature poétique. Il y a la littérature aussi apocalyptique. Et là, c'est un genre littéraire qu'on a dans Daniel, dans Ézéchiel, Zacharie et l'Apocalypse, bien sûr. Et c'est caractérisé par les symboles, les images, les monstres. Bon. Et dans le livre de Daniel, on a l'expression « fils de l'homme ». On va lire le texte en question. Daniel, chapitre 7, verset 13. En fait, est-ce que quelqu'un voudrait lire les versets du chapitre 7 de Daniel, verset 9 jusqu'à 14. 7, 9 à 14. Chapitre 7, verset 9 à 14. Qui voudrait nous lire ça bien fort, s'il vous plaît?
Je lis ça.
OK. Carole.
Verset 9 à 14. Mm-hmm. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu. et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite.
Merci. Ici, bien, dans cette vision où Daniel voit une vision du futur, une vision de ce qui va arriver, du jugement, il voit un fils d'homme. Un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples le servirent. D'après ce qu'on voit ici, le mot fils de l'homme, plus que simplement décrire l'humanité de Jésus, décrit qu'il est l'homme parfait par lequel Dieu va juger le monde. Ils vont introduire un monde nouveau. Et c'est tout cela qui est derrière cette expression-là qu'on retrouve dans les évangiles, dans Matthieu 16. Verset 3, quelques pages après notre chapitre, Matthieu 16, verset 3, excusez, verset 13 à 16, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » D'autres, Élie, d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, en référant lui-même, utilise cette expression, le Fils de l'homme. Et donc, il réfère à lui-même comme... C'est un terme messianique. Et on le voit aussi lorsqu'il est jugé par les leaders à la fin, avant d'aller être crucifié. Hein, vous verrez désormais le Fils de l'homme à droite de Dieu. Donc le semeur, c'est le Fils de l'homme. Dans notre parabole, le semeur, c'est le Fils de l'homme. L'homme messianique, l'homme parfait, l'homme que Dieu viendra, utilisera pour accomplir le jugement à la fin. Le champ, deuxièmement, le champ, c'est le monde. Le royaume des cieux, verset 37, est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Et verset 38, il dit, le champ, c'est le monde. Le monde. Ces versets sont controversés. C'est une expression qui est controversée. Parce que plusieurs sont d'avis que cette parabole concerne principalement l'Église et son caractère mixte. Hein, dans l'Église, il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. Il y a des vrais croyants et il y a des faux croyants. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, le bien et le mal vont coexister dans l'Église, dans les Églises. Et c'est vrai, la Bible dit que dans beaucoup d'églises, il y a des... En fait, certains sont peuvent être des faux croyants. Dans 1 Jean 2,19, ça dit « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il parle ici, bien sûr, de ceux qui renient la foi chrétienne. Et à ce moment-là, quand quelqu'un abandonne le christianisme, la foi en Jésus-Christ, bien sûr, là, il y en a qui vont dire « Oh, ils ont perdu leur salut. » Est-ce qu'on peut perdre le salut? Premièrement, qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est premièrement la vie éternelle. Une vie qui ne s'interrompt point. Donc, si c'est une vie qui est éternelle, qui ne s'interrompt point, on ne peut pas la perdre, sinon ce serait une interruption à la vie éternelle, ce serait une vie temporaire. Donc, c'est des gens qui n'ont, au départ, jamais eu le salut, le véritable salut, même s'ils en avaient les apparences. Bon, 1 Jean 2,19. Donc, on parle ici qu'il y a une possibilité que parmi les groupes d'Église, certains ne sont pas encore croyants, ou certains sont des faux croyants. Donc, il faut s'examiner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, examinez-vous pour vous, chacun vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi. Notre confession de foi, la 1689, la confession de foi de Londres, la deuxième confession de foi de Londres, rédigée en 1689, ou publiée, entérinée en 1689, chapitre 26, paragraphe 3, nous dit « Les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l'erreur. Et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Néanmoins, Christ a toujours eu, et il aura toujours, jusqu'à la fin du monde, un royaume dans ce monde, composé de ceux qui croient en lui et font profession de son nom. » Donc, notre confession de foi nous mentionne aussi qu'il y a dans chaque église un petit peu d'erreur, un petit peu, et la vérité. Mais on n'est pas parfait, notre compréhension n'est pas parfaite. On est en cheminement, on a approfondi la parole de Dieu. Mais ce qui est controversé, ce qui est en litige ici chez les théologiens, chez les croyants, c'est de savoir est-ce que cette parabole-là parle de la mixité, du caractère mixte de l'Église, ivraie, bon grain, croyant, faux croyant, ou est-ce que ça ne parle pas d'autre chose? Est-ce que c'est le but de la parabole de parler de cela? Est-ce que ça ne dit pas le champ, c'est l'Église. Elle dit le champ, c'est le monde. Jésus ne peut pas être plus clair que ça. Et on respecte ceux qui n'ont pas la même opinion là-dessus, bien sûr. On va en parler plus en détail tout à l'heure de ce qui peut être susceptible d'être de susciter des divergences d'opinion. Mais il est dit ici, le champ, c'est le monde. Jésus nous dit que le champ, c'est pas l'Église, mais le monde. L'ivraie pousse dans le monde. Jésus nous rappelle que le moment du tri final, ça va être au jugement dernier. Et ce moment-là n'est pas arrivé. Il y en a certains qui ont des idées assez radicales, diraient, les méchants, là, il faut les exterminer de la terre. Non, non, non! Jésus dit, c'est pas le moment. L'ivraie et le bon grain dans le monde poussent et faut pas en arracher un de peur d'en arracher un autre aussi. C'est au jour du jugement que ça va se faire. Jésus, le divin jardinier, le fils de l'homme, il sème la semence. Ici, contrairement à la parabole du semeur, la semence, c'est pas la parole de Dieu, mais ici, cette parabole, la semence, c'est le bon grain, c'est les fils du royaume. Les fils du royaume sont cette semence qui va croître jusqu'à la fin du monde. Mais le champ, c'est le monde. C'est-à-dire le milieu où sont semés les fils du royaume. Quand Dieu convertit un, sauve un autre, en attire un à lui. C'est dans le monde, c'est partout dans le monde. Bien sûr, ça a commencé à Jérusalem, ensuite le Judée, acte 1-8, hein? Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? L'Évangile s'ouvre aux nations, graduellement. Mais ça a commencé quelque part, à Jérusalem, mais Jésus avait une vision mondiale. Le champ, c'est le monde. C'est l'ensemble de la planète. Et un jour, devant le trône de Dieu, vont se tenir des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Dans Apocalypse 13, 7, il dit, il fut donné le pouvoir à Jésus sur toute tribu, toute nation, toute langue. En disant, et on va donner gloire à Dieu en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Comme le souligne le commentateur Hendrickson, dans son commentaire sur Matthieu, le champ n'est pas limité à Israël. Ça a commencé à Israël. Mais même là, même dans l'Ancien Testament, il y a l'océan du salut, le fleuve du salut débordait sur les païens. Hein? Une Ruth moabite qui se convertit, une Rahab, et qui sont même inclus dans les généalogies du Sauveur. Mais ça a commencé avec Israël. Mais ça s'applique aux gens de toute tribu, de tout peuple. Dans Matthieu 24, 14. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est le verset 12. Matthieu 24, 12. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24. Verset 14. Et Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha de ses disciples. À la fin, avant de partir, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est souvent le sens du mot « monde » dans les évangiles, dans les écrits de Jean. On parle, quand on parle de monde, toutes les nations. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il voit venir Jésus, c'est Jean-Baptiste qui voit venir Jésus à lui, et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et dans chapitre 4, verset 42, on peut tourner, dans Jean, chapitre 4, verset 42, un beau récit, le récit de la conversion de la femme samaritaine. Encore là, on voit la grâce de Dieu déborder sur les nations. Jean 4, verset 42. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 39 à 42, s'il vous plaît. Jean 4, verset 39 à 42. Ou pas.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parabole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. »
Ah, les Samaritains qui ont besoin de simplement entendre le témoignage de la Samaritaine, mais qui ont vu pour eux-mêmes et sont convaincus que Jésus est le sauveur du monde, de toutes les nations. Pas juste d'une nation, mais de toutes les nations. Sauveur du monde. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » On ne parle pas d'universalisme ici, que Jésus a effectivement payé la pénalité de chaque être humain. On ne parle pas de tous les êtres humains sans exception, mais on parle de tous les êtres humains sans distinction de race, de statut social, quoi que ce soit. Okay? Donc, c'est des gens de toute nation, de toute tribu. Donc, Jésus est mort à la croix pour sauver les péchés de tous ses élus, tous ceux qui vont se confier en lui et qui sont de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Donc, le champ, c'est le monde. C'est pas l'Église. On va voir qu'il y a des incidences quand même de cette parabole pour la vie de l'Église quand même. Plus tard, tout à l'heure. Hendrickson souligne aussi, dans son commentaire, la totalité de l'influence du royaume de Dieu, non seulement envers toutes les nations, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le champ, c'est le monde. Et Jésus va semer sa semence, semer l'Évangile, semer le royaume, pour une influence du royaume dans toutes les sphères de la société. Pas seulement dans toutes les nations, mais dans tous les domaines de la vie. Il faut que l'Évangile et sa lumière viennent éclairer tous les domaines de ma vie. Que ce soit la vie politique, la vie scientifique, la vie sociale, la vie familiale. Bon, ça va se manifester de différentes manières à chaque cas, mais on a une vision globale. L'Évangile est global. Hein? L'Évangile est total. Il touche à toutes les sphères de notre vie. Abraham Kuyper, le fondateur de l'Université libre d'Amsterdam, un grand chrétien, un homme d'État, un homme, un théologien, un philosophe, a dit « Il n'est pas de domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire « C'est à moi ». » Donc, l'Évangile touche à toutes les sphères de notre vie. Le champ du grand jardinier, c'est la terre. Toutes les nations et tous les domaines de la vie. Troisièmement, la bonne semence, les fils du royaume. C'est les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le mot « fils » dans cette parabole-là a trois sens. Il y a le fils de l'homme, le sauveur, les fils du royaume, les croyants, et les fils du malin. En fait, l'humanité se divise en deux. Hein? Les fils du royaume sont ceux qui reçoivent la semence de la parole de Dieu et qui portent fruits avec abondance, selon la parabole du semeur, Matthieu 13, verset 23. Les fils du royaume, c'est ceux qui reçoivent la bonne nouvelle du royaume et se soumettent volontairement et de manière humble au roi des rois. Ils deviennent fils du royaume. Dans Colossiens 1, 12, il est dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé Fils, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc ici, les fils du royaume sont ceux qui sont nés de nouveau. Hein? Et on va le voir ici, parce au verset 25-26, l'importance de naître de nouveau. Parce que au départ, on est et nous sommes des fils du malin. Ça, c'est le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Hein, l'ennemi du jardinier. Et il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et l'ivraie, au verset 38, Jésus l'explique, il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Bon, premièrement, l'ivraie. L'ivraie. On va au magasin, le jardin, on ne voit pas des gens qui vont, en tout cas, j'en ai pas vu à date, qui allaient pour s'acheter une poche de semences d'ivraie. On voudrait cultiver de l'ivraie, en arrière de chez moi. Non. En fait, c'est une mauvaise herbe. On n'a pas besoin de la cultiver, elle pousse tout seul. Hein, les mauvaises herbes, les pissenlits, là. Hein? On cultive une belle rose, on met tous nos efforts là-dessus, on enlève toutes les mauvaises herbes autour qui sapent toute l'énergie et les nutriments. Et la pauvre rose, elle finit par surgir puis à survivre. Et les pissenlits, ça pousse tout seul. Puis on en arrache un, il y en a 10. Bon, on en arrache 10, il y en a 100. Et même chose pour l'ivraie. En fait, le mot grec pour ivraie, c'est zizanion. Zizanion. Comme le mot zizanie. En fait, quand on dit, hey, lui, il sème la zizanie partout où ce qu'il va. Moi, à venir jusqu'à ce matin, quand j'ai tourné dans mon petit repère, je pensais que le mot zizanie voulait dire, simplement dire discorde. Mais en fait, c'est une mauvaise herbe. Et il donne comme équivalent l'ivraie. Ivraie. La zizanie, c'est de l'ivraie. C'est une mauvaise plante, une mauvaise herbe. Et quand on dit, ah, lui, c'est un semeur de zizanie, un peu comme dans les livres d'Astérix, hein, la zizanie, bon, c'est quelqu'un qui arrive dans le village gaulois, quelqu'un qui arrive quelque part, puis jase avec un, jase avec l'autre. Mais il sème les mauvaises idées, il sème la discorde. Et là, il s'en va, puis hein, le village gaulois va s'auto-détruire par lui-même, les Romains vont être contents. Et c'est ça, c'était un espion romain, de toute façon, c'était quelqu'un envoyé par les Romains pour ça. Il était un artisan de semeur de zizanie. Et la zizanie, c'est de la mauvaise herbe, autrement dit. Elle pousse partout. Et bon, elle fait... un mauvais trait, comment je pourrais dire. Elle a un mauvais effet. Hein? Et on dit ici que la zizanie, l'ivraie, c'est les fils du malin. Dans la parabole, l'humanité se divise en deux. Il y a les fils du royaume, qui s'associent volontairement aux fils de Dieu, au roi des rois. Seigneur, sois mon roi, je vais te suivre. Et il y a les fils du malin. Mais des fois, on dit, ouais, OK, il y a des gens qui sont possédés du diable, hein, là. Ils commencent à avoir les yeux à l'envers, ils écument. Donc, il y a des signes pathologiques, là. On les met dans un hôpital. Et, les autres, là, ah oui, ils sont vraiment sous l'activité démoniaque. Ou encore les auteurs de génocides, ou encore de... les violeurs ou ceux qui font des péchés notoires, OK? Des pécheurs notoires, oui, ils sont des... ils subissent l'action du diable. Mais quelqu'un qui vit une vie rangée, tranquille, et qui essaye le plus d'être honnête selon ce qu'il peut, qui essaie de faire du bien autour de lui, ben, on a tendance à dire ils sont pas sous l'activité du diable, eux. Encore moins de dire qu'ils sont les fils du diable. Mais, la Bible, comme on va chez le docteur, la Bible, elle donne un diagnostic radical de l'être humain, et réaliste, et elle donne un remède aussi radical. Elle va à la racine. Et la Bible nous dit que, au départ, d'après ce qu'on voit, à cause qu'on est fils d'Adam, on hérite de son péché originel, on hérite de sa culpabilité. On est fils d'Adam et on est fils du diable aussi, fils du malin. Même si on est mal à l'aise un petit peu d'entendre cela, et même si on grandit dans un environnement chrétien, ça n'empêche pas qu'on est fils du malin, fils ou fille du malin, fils du diable. La Bible dit ici, il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un ou l'autre. Nous sommes ou bien fils de Dieu, ou bien et enfants de Dieu, selon ce qui est dit dans Jean 1. Jean 1 nous dit, ils sont nés, non selon la volonté de l'homme, non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et dans Jean 3, il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. passer par une deuxième naissance. Donc, dans Jean 8, 44, il y a certaines expressions comme ça. Jean 8, 44, Jésus parlait à ses compatriotes et en Jean 8, 44. Jean 8, verset 44. Et Jésus parlait ici à qui, là? Plusieurs crus. Hein? Jésus, donc il parle aux Juifs. Il parle, donc on voit au verset 30-31 qu'il parle aux Juifs qui sont les fils d'Abraham selon la chair. Mais ils cherchaient à le faire mourir, verset 40. Et Jésus leur dit, faites les œuvres de votre Père. Ils dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Comme une petite insulte envers lui. Il pensait qu'il était un enfant illégitime parce qu'il n'avait pas de père terrestre. Ou à cause que c'était pas Joseph qui était son père terrestre. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Donc, Jésus insinue que ce n'est pas tous les êtres humains qui ont Dieu pour Père. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. 44. Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu à la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Et il parle du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de l'humain. Bon. Et dans Acte 13, 10, à un moment donné, l'apôtre, Acte 13, 10, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui, hein, un magicien, et dit, « Toi qui es plein de toute ruse, de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? » Donc il a appelé cette limace, le magicien, fils du diable. Et dans Éphésiens 2.1, il dit, parle aux Éphésiens, qui étaient païens avant, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cœur de ce monde, le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » On parle ici de fils de rébellion, qui sont caractérisés par la rébellion. Rébellion contre Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Hein? En tant que croyants, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, oui, on était de leur nom, nous aussi. Nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de Dieu? Non, des enfants de colère, comme les autres. Donc, on parle ici des fils de la rébellion, des fils de colère. Une autre façon de parler de fils du diable, bon. Il faut se souvenir que tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Oui, on le reconnaît d'après ce que la Bible dit. Mais c'est autre chose de dire que tous les gens sont enfants de Dieu. Ça, c'est une erreur. Dieu accorde des bienfaits à ces créatures. Mais on est enfant de Dieu lorsqu'on est spirituellement. Tout comme on est enfant de nos parents lorsqu'on est physiquement, on est enfant de Dieu lorsqu'on est spirituellement. On est de nouveau. On vient à Jésus. On se convertit à lui. On dit, contrôle ma vie, Seigneur. Je viens à toi. Donc, au départ, nous naissons tous comme des enfants de colère, des fils du malin, des fils du diable, en raison du péché originel et de la faute d'Adam qui nous a été transmise. Donc, pour changer de famille et devenir enfant de Dieu, et ce, même si on grandit dans un foyer chrétien, tout ça. C'est pas l'appartenance, c'est pas héréditaire, c'est pas mon appartenance externe à l'Église ou à la famille qui fait que je suis enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau, un choix personnel, reprendre un nouveau départ avec le Sauveur. Donc, l'ivraie, c'est les fils du malin. L'ennemi, c'est qui? Verset 39, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé l'ivraie, c'est le diable. En fait, le mot diabolos en grec veut dire séparation. Hein? Séparation. Satan, il sépare. En fait, Jésus vient de dire dans ce qu'on a lu dans Matthieu, dans l'évangile de Jean, qu'il est meurtrier. Il est menteur, il est meurtrier. Hein? Meurtrier, ça veut dire séparer quelqu'un de sa vie. Le diable, c'est le semeur de zizanie. Il s'arrange pour que le moins de gens possible se tourne vers Dieu et demeure fils du malin et ne devienne pas enfant de Dieu et fils du royaume. Le diable s'arrange pour que les gens croient au mensonge plutôt qu'à la vérité. Et donc, l'ivraie, les fils du malin, se multiplient. Et on a besoin, nous, comme croyants, de réaliser cela et de prier le Seigneur qui nous guide afin qu'on garde fidèlement l'Évangile et qu'on le publie afin que d'autres puissent venir à connaître le Sauveur et soient transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et finalement, la moisson, verset 39, c'est la fin du monde. Toujours dans Matthieu 13. Matthieu 13. L'ennemi, verset 39, l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et là, il va exploiter un petit peu, développer ce point-là en détail. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, la séparation de l'ivraie et du bon blé, ça va se faire à la fin, au jugement dernier. Et il dit, les moissonneurs, ce sont les anges, on va y revenir tout à l'heure. Comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, autrement dit de la terre, parce que le royaume de Dieu est une réalité plus grande que l'Église. Hein? Parce que Dieu règne sur l'Église d'une façon prééminente, d'une façon spéciale, mais il règne sur l'univers aussi. Et il montre des témoignages de ce qu'il est en dehors de l'Église. Hein? Et les gens voient par la beauté de la création, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Dieu travaille. Et il dit ici, au verset 40, « Comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » C'est un verset qui nous rappelle la vision du grand jugement dernier de Matthieu 25. Et c'est un verset tellement important, un passage tellement important, parce que, certains vont dire que à la mort, bon, si on n'est pas sauvé, ben on va être simplement détruit. Hein? Notre âme va être détruite et il n'y aura pas de peines éternelles ou d'enfer éternel, mais ce ne sera pas une souffrance consciente. On va être détruit. On va être comme si on n'existait pas, comme si on n'avait jamais existé. Mais Matthieu 25, qu'est-ce qu'il dit concernant le jugement des nations? Hein? Il nous dit, bon, les boucs à sa gauche et ses brebis à sa droite. Hein, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde, car j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais affamé, vous m'avez nourri et tout cela. À la fin, il est dit, verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci, verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Autant l'un, il y a une belle symétrie ici dans le verset 46, autant l'un est un état éternel de béatitude et de bonheur, sans fin, conscient, autant l'autre, c'est la même terminologie qui est utilisée, le châtiment éternel, autant l'autre est un état conscient de détresse éternelle, qui n'aura pas de fin. Autant l'un n'a pas de faim, autant l'autre n'a pas de faim. Donc, les gens qui passent par les portes et qui disent que, bon, non, l'enfer n'existe pas, ben, c'est un texte qui vient vraiment répondre à cette question-là. Et, alors, aussi, quand Jésus parle de Judas, « Mieux vaudrait pour lui, malheur par qui le Fils de l'homme est livré, car mieux vaudrait pour lui de ne pas être né. » Qu'est-ce qu'il y a de pire que la non-existence avant la naissance? C'est une existence consciente, éternelle, de tristesse et de souffrance. Autrement, si on n'existe plus, si c'est simplement la destruction de l'âme après la vie, la mort, ben, on n'est pas pire que ce qu'on était avant de naître, la non-existence. Mais quelque chose de pire, Jésus a dit, mieux vaudrait pour lui de ne pas être né. Donc, ici, quand on parle dans cette parabole, à la fin, que les anges, que le Fils de l'homme va avoir envoyé ses anges, les arracheront de son royaume, vont arracher tous les scandales, ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu, et où il y aura des pleurs, des grincements de dents. On parle ici de cet état conscient éternel de souffrance. Il y a différents termes utilisés, différentes images, là, mais c'est quand même l'état conscient éternel de souffrance. Mais on ne veut pas simplement rester sur cet élément négatif. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes resplendiront comme le soleil. Et dans Daniel, ça me fait penser encore à Daniel, le prophète Daniel, chapitre 12, où on parle que ceux qui auront enseigné la justice vont briller comme les étoiles du ciel. Daniel 12. La pluie tant attendue. Les fleurs vont refleurir, les parterres vont reverdir, à condition que ça tombe plus que 30 secondes. attendez. Daniel 12, ok. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, l'abjection éternelle. Symétrie. Autant un est éternel, un état éternel de conscience, autant dans le bonheur, autant l'autre est aussi un état éternel de conscience, dans l'abjection, dans la... Qu'est-ce qu'il dit ici?
La honte.
la honte, oui, l'objection éternelle. Ceux qui auront été clairvoyants, hein, ceux qui ont connu Dieu, qui ont vu clair, ils resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Quand même, cette parabole, comme on en a fait allusion tout à l'heure, a fait susciter beaucoup d'encre, fait couler beaucoup d'encre et susciter beaucoup de débauches dans les églises. En fait, on a différents types d'églises chez les protestants. Tu vois, les églises de professants, hein, chez les protestants, on a les églises de professants, ceux qui professent la foi, et ceux qui sont baptisés sont ceux qui professent la foi consciemment. Okay? Donc, on a les églises baptistes, on a les églises des frères, on a les églises, beaucoup d'églises évangéliques aussi, et des églises pentecôtistes, donc, qui, toutes ces églises ne baptisent que les croyants. Il y a les églises de multitude aussi, multitudinistes, et donc, nos frères presbytériens, les anglicans, les méthodistes aussi, baptisent aussi les bébés. Et à ce moment-là, dans l'Église, tu as une multitude. Tu en as qui sont croyants, professants, et qui ont fait un choix conscient, et d'autres qui, où dans l'Église, tu as les croyants, professants, et tu as leur famille, ou leurs enfants, qui n'ont pas encore fait ce pas-là. Et ils vont être considérés quand même membres d'Église, mais c'est... on appelle ça des églises de multitude. Et beaucoup de choses en commun, hein, avec nos frères presbytériens particulièrement. La confession de foi 1689 est presque identique à la confession de foi de Westminster, hein, sauf par exemple sur le baptême ou sur l'Église. Et on a toujours des bons moments d'échange ensemble. Mais quand même, c'est d'être simplement lucide que de faire aussi, d'appliquer les choses ici pour expliquer ce qu'il en est de façon paisible. Et donc, dans les églises de multitude, c'est ça, à cause du baptême des bébés, il y a une multitude qui sont mixtes. Les membres de l'Église sont considérés soit des professants, soit des ceux qui n'ont pas professé encore. Donc, sur une base biblique, nous, on ne baptise simplement que les croyants convertis et seuls ceux-là peuvent devenir membres de l'Assemblée, ceux qui ont professé la foi personnellement. Notre théologie, c'est ça, c'est ce que j'ai mentionné. Donc, sur ce point-là, on se distance de nos frères presbytériens à ce niveau-là. Et dans l'argumentation qui est utilisée principalement par les tenants de l'Église de multitude, cette parabole va être utilisée pour mentionner « Ah, il y a du mal dans l'Église, ou il y a des non-croyants et il y a des croyants, et c'est normal. » Et à ce moment-là, ils vont avoir une tendance à faire moins de discipline. Donc, il y a une Église, il y a certaines Églises où ils ne feront pas du tout d'excommunication, parce qu'on dit « Ah, c'est... Il faut l'accepter comme tel. » Et puis, il faut certainement être charitable. Hein? On a tout un cheminement différent. On avance à un rythme différent. Mais la Bible mentionne aussi que quand on fait profession d'être croyant, il faut essayer, autant que faire se peut, d'abandonner la pratique du mal et ce qui est vraiment... ce qui est notoire, ce qui est visible, c'est sûr, les péchés qui sont les plus évidents partent en premier, et les questions d'orgueil, les questions d'impatience, ça, c'est plus intérieur et ça prend plus de temps à partir. Donc, c'est important de garder ça en pensée. Et c'est pour ça que notre confession de foi nous dit: oui, il va toujours avoir un peu de mal, un peu de mélange d'erreurs aussi. dans toutes les églises, mais il y a certaines églises où c'est plus évident. Bon. Mais ce qu'on voulait souligner tout à l'heure, c'est que le but de la parabole, même si on voit, en réalisant qu'il y a du mal et de l'ivraie dans le monde, bon, ben, vu que l'Église est dans le monde, il y a aussi du mal dans l'Église, mais cette parabole-là ne s'applique pas directement à l'Église, mais par indirectement, OK? Par ricochet. Bon. Il dit ici, en dernier lieu, les moissonneurs sont les anges. Bien sûr, Dieu va utiliser les anges au niveau du jugement. On le voit aussi dans l'Apocalypse. Et Dieu utilise ses serviteurs. Même Dieu dit qu'il va utiliser les croyants pour participer au jugement des impies. C'est sûr que nos sentiments, quand on pense à ça, là, on se dit « Wow, hey, ça va être toute une lourde charge. » Surtout pour ceux de ma parenté qui ne sont pas croyants, de participer au jugement dernier, tout ça. Moi, comme croyant, d'exécuter aux mains du Seigneur ce jugement. Mais nos sentiments vont être purifiés en Dieu à ce moment-là. Ça fait penser à Spurgeon. Plusieurs connaissent Spurgeon, le prédicateur baptiste anglais, il y a deux siècles. Avant de se convertir, il était haut comme trois pommes. Et il vient d'une famille où son grand-père était prédicateur, son père et tout ça. Et il n'était pas converti encore. Il n'avait pas donné son cœur à Jésus. Et sa maman dit, « Tu sais, Charles, parce que c'était son nom, Charles Haddon Spurgeon, tu sais, Charles, il y a un passage dans l'Écriture qui dit que le jugement de Dieu va s'exécuter avec justice et tous ceux dont le cœur est droit vont l'approuver. » Elle dit, un jour, maman va être à côté de Dieu, puis si tu n'es pas converti, maman va dire, une fois que Jésus va dire, retirez-vous de moi, allez dans le lac de feu, maman va dire, oui, OK. Elle va donner son approbation. Ça a fait toute une impression sur lui. Et ça a été un moyen pour que quelques années plus tard, qu'il se convertisse. En tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main sur la biographie de Spurgeon, il y a deux tomes qui ont été faits par Arnold Dalymore aux éditions Banner of Truth. Et les premières années de Spurgeon, les dernières années. Et plusieurs ont été, un ou deux livres de sa biographie ont été traduits par Europresse. Mais je vous le conseille fortement. Donc, avec cette parabole de l'ivraie, on a parlé encore une fois de l'agriculture spirituelle, de Dieu qui cultive, qui sème la semence, et que Dieu puisse faire récolter dans nos cœurs, faire fleurir dans nos cœurs cette semence de l'Évangile, qu'on soit nous-mêmes une bonne semence dans le monde pour que son Évangile puisse aller de l'avant. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté. Merci parce que tu as un plan parfait, un plan qui nous dépasse. Et des fois, on se dit, ouais, j'aurais pas prévu les choses de cette façon. Mais ton plan est parfait. Et un jour, on comprendra tout, les détails, peut-être dans l'au-delà. Et certainement, oui, tu nous dis que nous comprendrons. Aide-nous, Seigneur, à être des bons témoins. Et si ce n'est pas le cas, qu'on puisse s'abandonner à toi pour que tu règnes dans nos vies. Que tu règnes dans nos vies, que tu nous soutiennes, qu'on puisse te suivre, Seigneur. Parce que vivre avec toi, c'est la vraie vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.